Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ce soir au studio Ozone, où nous allons parler pendant à peu près une heure de Howard Philip Lovecraft et de son œuvre. Je vais me livrer à une courte introduction et ensuite je poserai quelques questions à mes deux intervenants. Donc, Howard Philip Lovecraft est mort il y a 80 ans cette année. Et de son vivant, il n'a jamais été publié chez un éditeur. Les recueils de ses nouvelles ou ses brefs romans n'auront pas été des best-sellers. Et on ne compte pas non plus de blockbusters mondiaux tirés de ses écrits. Et pourtant, d'Alain René à Alan Moore, des élections américaines, que tu fais américain, à un microbe intestinal des termites, Sissim, qui a été baptisé Cthulhu, les créateurs et les lieux imaginés par Lovecraft sont présents partout, dans les recherches universitaires pointues, aussi bien que dans les scénarios des ados qui viennent de découvrir la 7e édition de l'Appel de Cthulhu, qui est sortie à la rentrée, si je ne m'abuse. Lovecraft semble avoir malgré lui donné une naissance à une culture populaire, une tradition intergénérationnelle, ni vraiment geek, ni tout à fait grand public. Comment ? Pourquoi ? On va voir ça avec Mathilde Manchon et Emmanuel Bouteille, dont les travaux et les parcours permettront sans aucun doute de témoigner et d'éclairer un peu la permanence et la vivacité du mythe de Cthulhu. Je vais, Mathilde, vous proposer de vous présenter, s'il vous plaît.
Alors, je m'appelle Mathilde Manchon, je suis actuellement étudiante, j'ai toujours été passionnée par Lovecraft et tout ce qui concerne la science-fiction, le fantastique et la fantasy, et j'ai eu la chance en fait de travailler sur cet ouvrage où j'ai écrit l'article « Les lieux et Lovecraft ». Donc, c'est une monographie qui est parue cette année aux éditions ActuSF et vous avez beaucoup d'intervenants. Enfin, c'est une monographie très complète si vous voulez découvrir un peu plus Lovecraft. Voilà.
Merci, on y reviendra assez souvent. Emmanuel ?
Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis Emmanuel Bouteille, je suis éditeur de bandes dessinées, de livres sur le cinéma et depuis 2003. Et dès le début de notre existence, nous avons publié des bandes dessinées adaptées de Lovecraft. Et nous continuons à ce jour, donc ça représente pas mal une partie de notre catalogue. Voilà.
Alors on va commencer assez basiquement. En fait, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez rencontré Lovecraft, en fait. Par quel livre, quel texte ou quelle image, Mathilde ?
Alors en fait, moi j'ai découvert Lovecraft vraiment par hasard et assez tard. Comme je vous l'avais dit, j'ai toujours été passionnée par l'horreur, la littérature horrifique, etc. Et j'ai découvert Lovecraft, j'avais 19 ans, donc là j'en ai 23, donc ça fait pas si longtemps. Et je faisais un stage en librairie, je rangeais des livres et je suis tombée sur Horreur, l'abomination de Dunwich de Lovecraft. Alors le titre m'a interpellée. Et j'ai été très attirée, je l'ai lu, et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis vraiment intéressée à l'univers de Lovecraft. Mais c'était vraiment par hasard.
Et donc, du coup, l'abomination de Dunwich, ça sera un peu votre texte de référence ?
Non, pas du tout. En fait, mon texte de référence, ça serait plus celui sur Innsmouth. Et le Cthulhu, bien sûr. L'abomination de Dunwich, ça m'a interpellée. C'est une nouvelle qui est assez courte, en fait. Elle fait à peine une centaine de pages. Et ça m'a surtout intriguée. Et c'est petit à petit, en fait, que... Mais ça n'a pas été le déclic tout de suite. Au contraire, j'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans et à comprendre, en fait, l'auteur. Parce que c'était... Voilà.
D'accord. Emmanuel ?
Alors, moi, j'ai découvert Lovecraft comme... pas mal de gens de ma génération, parce que j'ai 45 ans, et en 84 est sortie la première édition du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, donc j'avais 12 ans. On découvrait à l'époque les premiers jeux de rôle, Donjons et Dragons, et un des premiers qui a été traduit en français, c'était L'Appel de Cthulhu. Et j'ai, donc je l'ai découvert. C'était donc un jeu où un jeu de rôle où on prend le rôle d'un investigateur qui fait des enquêtes dans le domaine de l'occulte. Et il y a ces noms, il y avait tous ces noms des créatures de Cthulhu, Shub-Niggurath, Nyarlathotep. Donc c'était très intriguant. Et en plus, par rapport aux autres jeux où on incarnait plutôt des sortes de super-héros, là, vous incarniez un bibliothécaire, un archéologue dans les années 20. Donc, ça avait a priori rien d'être pour faire fantasmer un jeune adolescent, mais finalement on se plongeait énormément dans cette ambiance années 20 et occulte et mystérieuse et horrifique. Et évidemment dans le jeu ils expliquaient que c'était inspiré par l'univers de Howard Phillips Lovecraft, et je me souviens nettement avoir dit je vais essayer de lire ça, et la première fois que j'ai essayé de lire ça à 12 ans, j'ai pas du tout accroché, le style me paraissait complètement désuet, ampoulé, et pas du tout dans la lignée de ce que je pouvais lire à l'époque de fantasy ou même d'horreur. Et donc j'ai un peu laissé tomber. Et puis tout en continuant à m'intéresser au jeu, progressivement, j'ai commencé à réessayer de lire ces ouvrages. Et puis je me suis acheté, à l'époque, il n'y avait quasiment que ça, les bouquins là, de chez Robert Laffont, avec l'intégrale des premières traductions de Lovecraft. Et puis voilà, un jour, on accroche au truc, et là on s'arrête plus, quoi. Je me souviens d'avoir tout dévoré en peu de temps. J'ai aussi une préférence pour Le Cauchemar d'Innsmouth, parce qu'il y a beaucoup d'éléments clés, je trouve. Il y a ce côté... Alors déjà, un récit à la première personne, ce glissement dans la folie, c'est presque la nouvelle la plus... où il y a le plus d'action, on va dire. Donc c'est un côté... plus terre-à-terre et peut-être moins ésotérique. Et surtout, c'est extrêmement visuel. Je trouve que quand on lit cette nouvelle, on est vraiment dans les yeux du personnage qui arrive dans ce village, dans cette ville en déshérence, qui est en pleine récession économique et qui commence à voir que les gens ont des apparences bizarres, et qui va découvrir petit à petit tout ce qui se trame derrière, tout en sombrant petit à petit dans la folie, ce qui est quand même le thème un peu général. Et donc, bon, après, dans chaque histoire, on peut trouver des éléments qui se retrouvent. Je pense qu'on évoquera ça. Et c'est ce qui fait que ça reste, je pense, c'est ce qui fait le succès. Mais en tout cas, pour revenir à comment j'ai été en contact avec Lovecraft et pourquoi... finalement, ça continue à intéresser les gens. Je pense qu'on peut se glisser dans son univers sans forcément, au départ, lire les nouvelles, même si c'est évidemment utile. Mais le fait qu'il ait créé ces noms, ces lieux, cette mythologie, et qu'en plus, il avait encouragé ses amis écrivains de l'époque à réutiliser toute cette géographie, tous ces noms. Donc, parmi ses contemporains et ceux qui ont suivi, il y a beaucoup d'écrivains qui ont réutilisé sa mythologie, les lieux, le nom d'Arkham, cette ville imaginaire du Massachusetts, est passé pratiquement dans l'imaginaire populaire à travers plein d'éléments, dont évidemment Batman, puisque c'est l'asile d'Arkham. Voilà, enfin, il y a plein de... En fait, on peut piocher plein de choses. Et du coup, ça crée une espèce de mystique. Je pense qu'il y a l'aspect comme ça. Est-ce que tu connais ces noms-là? Est-ce que ça te dit quelque chose? On a l'impression un peu de faire partie d'un clan, je pense.
Tout à fait. On vient d'ores et déjà d'évoquer les villes et les lieux de Lovecraft. C'est le sujet en fait de votre article dans Lovecraft au cœur du cauchemar. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cet aspect particulier de l'œuvre de Lovecraft?
On m'a proposé en fait, ouais. On m'a directement donné le sujet, donc je l'ai pas tellement choisi, mais c'est un sujet qui m'a vraiment tout de suite intéressée, parce qu'il y avait vraiment un travail de recherche et mine de rien de relecture des œuvres de Lovecraft pour comprendre, parce que ce qui est intéressant quand on lit Lovecraft, c'est qu'il décrit vraiment les lieux et ce qui nous entoure, et on a à la fois une difficulté de la part du narrateur à exprimer à ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et donc, quand j'ai mené toute ma recherche, j'ai relu toutes les œuvres de Lovecraft. Donc, j'ai fait une partie en fait de mon article sur les contrées du rêve, où là vraiment on est dans un monde onirique. Et ensuite, je me suis intéressée aux villes donc phares de Lovecraft, qui sont Arkham, Innsmouth, Kingsport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dunwich, et il y a aussi donc la cité de Cthulhu, Hrlei. Hrlei. Et ensuite, je me suis intéressée à comment Lovecraft en était arrivé à créer ces villes, à donner une identité à ces villes. Et en fait, en faisant des recherches, il faut savoir que Lovecraft il est connu comme étant le plus célèbre des rêveurs. Il était connu pour ses rêves lucides, parfois même astrales pour certains. On disait même que pendant qu'il rêvait, il visitait des villes, même des villes où il n'avait jamais mis les pieds. Et ensuite, il retranscrivait ses rêves dans ses écrits. C'est ce qui lui permettait de créer ces lieux. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Lovecraft a quand même beaucoup voyagé à New York, à Salem, Boston, et aussi, bien entendu, Providence, où il y a passé le plus clair de son temps. Et toutes ces villes, ces voyages l'ont aidé à écrire et à créer ces lieux, en fait, à créer ces lieux. New York particulièrement avec Red Hook, je crois que c'était
Meurtre à Red Hook.
Oui. Du coup voilà.
Oui, c'est vrai que en fait je me faisais la remarque en préparant l'intervention, c'est finalement Lovecraft, c'est pas tellement peut-être que je me trompe, que vous avez pas la même perception, mais c'est pas tellement un auteur de personnage en fait, à part Randolph Carter finalement. On n'a pas de personnage saillant, c'est plus effectivement quelqu'un qui s'attache à des lieux. Vous trouvez que les villes et les paysages de Lovecraft ont des points communs qui permettent dans les ambiances ou dans l'architecture?
Oui. Oui, il y a quand même. Bon, il a vécu surtout à Providence dans le Rhode Island. C'est quand même un pur produit de la Nouvelle-Angleterre. Il était très ancré dans cette culture-là. Et donc, ce sont des lieux qui sont, pour certains, imaginaires, mais quand même situés géographiquement dans le Massachusetts ou dans le Rhode Island. Sa fameuse université aussi imaginaire, je ne sais pas si tu l'as évoqué,
oui.
Miskatonic, qui est quand même voilà, qui est basée sur l'université de Providence à laquelle il n'a jamais pu intégrer. Il a quand même vécu essentiellement à Providence, bon, il a passé effectivement quelques années à New York, mais il en est parti parce que c'était trop cosmopolite pour lui. Et en même temps, on dit souvent le reclus de Providence parce qu'il a vécu, il a eu effectivement pratiquement 10 ans, au moment où il a eu 18 ans, il a vécu presque 10 ans apparemment dépressif, sans sortir de chez lui ou pratiquement. Mais après, il a vécu à New York et surtout il a écrit des centaines de milliers de lettres, enfin plus de 100 000 lettres. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait une vie sociale, elle était sous cette forme-là épistolaire, mais il a fait, comme tu dis, beaucoup de voyages, et il aurait voulu en faire plus, mais il avait un problème de finances aussi à la fin, puisqu'il n'a jamais gagné beaucoup d'argent, et que sa famille, qui était issue d'une grande famille, la famille Phillips, du côté de sa mère, avait des gros moyens, mais ils avaient fait des mauvaises affaires, et son grand-père avait perdu l'essentiel de sa fortune. Donc lui, il a vécu essentiellement dans la pauvreté. En plus, en bon gentleman de Nouvelle-Angleterre, il considérait que c'était pas digne de lui de travailler et il se faisait mal payer. En plus, en général, je crois que le plus qu'il ait jamais touché pour une nouvelle chez Weird Tales, c'est $200 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est le succès, pour le coup, est arrivé bien après. Mais donc il y a une ambiance Nouvelle-Angleterre et en même temps, il y a une universalité parce qu'il va évoquer des lieux. Si on prend La couleur tombée du ciel, par exemple, on est dans le cadre d'une nouvelle où il décrit une ferme au milieu de nulle part. Il y a rien, il n'y a pas de repère, quoi. Donc c'est même pas un lieu, c'est même pas des gens très précis, c'est une espèce d'événement pris dans son... Et d'un autre côté, il peut faire des descriptions très précises, comme dans Innsmouth, où il va décrire où elle se trouve, parce qu'elle est entre trois ou quatre villes bien précises qui existent, pour le coup, donc on peut vraiment l'imaginer. Et il va donner des décors très précis. Mais ça, je crois qu'il y a des phases dans sa maturation d'écrivain. Au début, où il s'inspirait beaucoup d'Edgar Poe, il avait un style. Et puis après, quand il a eu son cycle des rêves, c'était Lord Dunsany. On peut dire quand même que c'est que vers la fin de ces dernières années, on va dire les 4-5 dernières années, qu'il a trouvé sa voie, je pense, en termes de d'expression, et il a commencé à être plus descriptif, justement. Et quand on lit son plus long texte, qui sont les Montagnes hallucinées, il y a un sens de la précision absolument incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement onirique et particulièrement perturbant ce qu'il décrit, les créatures qu'il décrit, mais elles sont décrites de manière très très précise, ce qui fait que des illustrateurs ont pu après s'amuser à le faire. Et en même temps, c'est à la fois très descriptif, et quand on le voit, on est toujours, moi je trouve un petit peu déçu, parce que c'est tellement étranger et bizarre qu'on s'est fait une image dans sa tête, et que souvent, voir une illustration... Alors si on a vu l'illustration en premier, quand on lit le texte, on se fond dedans, mais si on s'était fait déjà une image, c'était différent. Et en tout cas, il décrit donc à la fois des lieux très précis et qui ont une ambiance particulière, et il peut décrire le Grand Nord, comme dans les Montagnes hallucinées, de manière extrêmement vivace, je trouve.
Il y a d'autres caractéristiques que vous avez pu retenir sur les lieux lovecraftiens à tout niveau? Quelque chose qui vous aurait marqué, en fait.
Lovecraft aimait beaucoup l'architecture, donc on a souvent de bonnes descriptions au niveau architectural. Il aimait beaucoup le style géorgien. Donc pareil, ça se retrouve beaucoup dans ses écrits. Il décrit aussi des cités. Il y a la cité sans nom, où là, pareil, on a toute une description des murs, de la cité. Et là, pareil, il se serait inspiré de la cité des mille piliers, je crois, dans le désert du Sahara, quelque chose comme ça. Et ensuite, pour... je réfléchis. c'est toujours... ce qui est intéressant avec Lovecraft, il a cette peur de tout ce qui est moderne, de la modernisation. Donc du coup, quand on lit ses écrits, on voit toujours le passage de l'humain qui détruit, en fait... les villes qu'il décrit, elles ont toutes... elles sont, par exemple, quand on regarde Innsmouth, on sent que l'homme est passé par là, et que l'évolution, que la trace de l'homme, enfin, qu'il va laisser, ça ne va qu'empirer, en fait. Pareil pour la cité sans nom, là, il y a une trace des grands anciens qui étaient là avant. Et Lovecraft avait peur de la ville moderne, justement. Enfin, c'est ce que j'avais...
D'accord. Pour son côté cosmopolite, essentiellement. Aussi, oui. Ce qui est très paradoxal chez lui aussi sur certains aspects.
Et en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que d'avoir fondé beaucoup de ses textes sur la ville, finalement, ne l'a pas inscrit dans une certaine modernité, puisqu'on est tous maintenant des urbains au XXIe siècle? Est-ce que ça peut participer de la vivacité dont on parlait au début du mythe de Cthulhu et des écrits de Lovecraft?
Je ne sais pas, parce que, encore une fois, moi, quand je pense à Lovecraft, je pense effectivement à des villes comme l'univers Nouvelle-Angleterre, mais il y a aussi... Dunwich, c'est quand même un trou, quoi. C'est la ville recluse. Innsmouth, c'est l'archétype un peu de la ville qui a eu une heure de gloire du point de vue économique et qui est en pleine récession. Donc on peut y lire plein de phénomènes qu'on a pu observer réellement dans ces villes qui se sont... qui ont perdu de leur éclat avec le déclin économique. Donc oui, c'est vrai que l'horreur est souvent urbaine. Enfin, on a une tradition d'écrivains qui placent des récits d'horreur dans l'histoire urbaine, mais je pense qu'il a il a été suffisamment large pour pas se limiter à ça, quoi. Mais,
Parlons un peu de bande dessinée. Comment vous en êtes venu à publier des adaptations en bande dessinée de Lovecraft, sachant que, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, Emmanuel, quand on lit du Lovecraft, on a tendance à se faire sa propre image, en fait. Et comment vous avez pu finalement confronter votre imaginaire à celui des auteurs que vous avez publiés chez Achilleos?
En fait, au départ, c'était, enfin, moi à l'époque, on voulait publier des bandes dessinées, et il se trouve que un des premiers projets qu'on nous a proposé, c'était un auteur allemand, Reinhard Kleist, qui nous a dit, voilà, j'ai ce recueil d'histoires. Bon, je vous le montre, il est épuisé depuis, parce que ça fait un moment qu'on l'a sorti, mais c'était un de nos premiers ouvrages. nous a dit, voilà, j'ai fait l'adaptation de quelques nouvelles de Lovecraft, dont Les rats dans les murs, il y a Air froid aussi, et Meurtre à Red Hook, je ne sais plus encore, enfin il y en a 5. Voilà, c'est en noir et blanc, c'est Lovecraft, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai dû attendre 2 dixièmes de seconde avant de lui dire oui. J'ai convaincu mon associé à l'époque, qui n'était pas forcément un fan de Lovecraft. Je lui ai dit, ouais, si, il faut y aller, c'est super. Donc là, pour le coup, c'était, je me faisais plaisir à moi directement. Et ça m'intéressait de voir quelle était sa vision. En plus, c'est des nouvelles que je ne connaissais pas. Donc je les ai découvertes par son biais. Moi, j'avais lu surtout les textes du mythe de Cthulhu. Et là, c'est plutôt des textes antérieurs, des courtes nouvelles. Et donc, oui, d'un côté, on est, entre guillemets, déçus, mais d'un autre, comme chacun va proposer une forme d'interprétation, l'exercice de l'adaptation, qu'il soit pour Lovecraft ou pour un autre, moi, je trouve qu'il est intéressant quand il laisse une forme de, justement, de liberté d'interprétation. Si le roman est précis au point qu'il est très difficile d'imaginer autre chose, bon, a priori, on va avoir une adaptation, mais c'est pas la peine d'en faire beaucoup. Or, il se trouve que Lovecraft a suscité... même pour certaines nouvelles, plein d'adaptations différentes. Et donc, on a fait ce premier ouvrage qui a plutôt bien marché, parce qu'il y a des fans voilà, qui cherchent, comme moi ou comme d'autres, qui étaient contents de pouvoir lire ces ouvrages-là. Et après, peu de temps après, on a fait cette BD, donc U29, qui est adaptée d'un texte assez court aussi qui s'appelle Le Temple et qui se passe dans un sous-marin allemand pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas la mythologie, les créatures qu'on connaît, Cthulhu et tout ça, mais c'est déjà cette ambiance. Et quand le scénariste nous a amené son projet avec les premières planches, il avait un découpage très précis et ça rendait bien l'ambiance, quoi. En fait, ce qu'on a envie de retrouver, c'est cette ambiance. Cette ambiance à la fois sombre, mystique, un peu désespérée, et en même temps qui suscite une curiosité énorme, quoi. C'est-à-dire qu'on est comme... Lovecraft décrit l'homme comme étant minuscule à l'échelle du cosmos, et ça, ce qu'il a pressenti à l'époque déjà, puisque lui, il est né en 1890, plus la science progresse et plus on voit à quel point on est minuscule à l'échelle du cosmos. Donc ça lui a donné, je pense, cette modernité-là. Et en même temps, on a toujours envie d'aller voir, quoi. On a toujours envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà. Et cette bande dessinée, ça a été pratiquement notre première BD de création, donc avec des auteurs français, qui n'était pas une traduction, qui a connu un vrai succès. Je crois qu'on a vendu près de 10 000 exemplaires, ce qui, pour nous, à l'époque, était absolument hallucinant. Et il y a des anecdotes assez drôles, parce qu'à la fin... je ne vais pas vous dire la fin, on ne sait jamais. Mais c'est une fin ouverte. Et plein de gens venaient nous voir qui connaissaient pas, qui savaient pas que c'est... Parce qu'on n'a pas marqué sur la couverture Lovecraft, c'est marqué à l'intérieur que c'est adapté, mais... Sinon, c'est une histoire de sous-marin allemand pendant la guerre. Et il y a des gens qui l'ont pris de manière très littérale et qui nous disaient, c'est quand que sort la suite? Et quand je leur disais qu'il n'y avait pas de suite, que la fin, c'était ça, c'était cette fin ouverte. Il y en a qui étaient assez désemparés. Et il y a beaucoup de fins dans les textes de Lovecraft qui sont comme ça, abruptes, où soit le narrateur devient fou, c'est pour ça que les personnages ne durent pas très longtemps en général, donc ils terminent en disant « et c'est là que je suis devenu, j'ai perdu la raison », etc. Ou « ils sont derrière la porte, je les entends, ils arrivent tout, ». Toute cette logique-là, ou cette nouvelle, je sais plus, j'arrive plus à me rappeler le nom, mais où il y a des gens qui ont peur d'une créature, et le narrateur se rend compte à la fin, il se retrouve devant le miroir, et il se rend compte que c'est lui. En fait, il tend la main, et là, je crois que la dernière phrase, c'est « il touche le miroir ». Et là, on comprend vraiment juste à la dernière phrase que c'est lui qui est horrible et qui est... Bon, là, après, on peut parler de... Donc il y a ce côté aussi très fin, abrupte et presque déstabilisante qu'on retrouve que nous, on avait vraiment aimé retrouver dans cet ouvrage-là. Après, le même scénariste nous a proposé une adaptation de Nyarlathotep. Celui-là aussi, malheureusement, est épuisé. Qui, pour le coup, aussi était un cauchemar, pour les gens du marketing, parce que, ça, je peux vous le montrer, il n'y a pratiquement pas de cases, c'est que des grands tableaux. Il y a un peu de découpage, mais c'est que du narratif, il n'y a pas de bulles. Et c'est basé sur un texte qui est particulièrement ésotérique, donc il en propose une transcription, mais ça reste particulièrement... Il y a le texte original à la fin, illustré... Par des gravures, mais c'est un texte assez court. Et voilà, puis il y a des illustrations qui sont quasiment abstraites, quoi. parce que ça évoque... au style graphique, c'est un dessinateur qui se rapproche de Corben, qui était déjà un dessinateur américain assez largement influencé par cet univers-là. Donc voilà, moi j'ai toujours eu... c'est vrai qu'en plus, à partir du moment où on en publie un, bah, les gens nous proposent ce genre de projet. Et puis pour finir, on a publié... alors là, ce sont des traductions aussi, des adaptations d'œuvres de Lovecraft. La première, c'était « Les montagnes hallucinées ». Mise en illustration par Ian Culbard, un auteur anglais. Donc il a fait d'abord Les montagnes hallucinées, ça a très bien marché, et puis après il en a fait trois autres. Il a fait à la recherche de Kadat,
oui.
L'affaire Charles Dexter Ward, qui a un style un peu différent, qui est un peu un mystère victorien, ambiance victorienne, et le Shadow Out of Time, c'est dans l'abîme du temps. Merci Ben. Voilà. Et on les a rassemblés aussi. Il y en avait deux qui étaient épuisés. On a fait une intégrale de ces ouvrages-là. Et alors, ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que Yann a un trait qui est plutôt très ligne claire. Et souvent, il y a des gens qui trouvent que c'est pas du tout adapté parce que Lovecraft c'est sombre. Et moi, j'aime bien prendre le contre-pied aussi. Je trouve que c'est original et que, notamment dans Les montagnes hallucinées, comme c'est un récit qui est, comme je l'ai dit, est assez précis et détaillé, ça, c'est presque un compte-rendu d'exploration qui bascule dans le fantastique et dans l'horreur, mais ça s'adapte bien à un récit qui finalement est dessiné de manière assez réaliste, assez limpide. Et puis les créatures sont encore une fois décrites de manière très précise. Bon, quand il adapte Kadat, il est obligé de faire quelque chose de plus onirique, et il s'en sort bien aussi. Alors c'est vrai que quand on connaît les récits, on peut être un peu déstabilisé, mais je trouve que c'est une approche différente, et encore une fois, indépendamment du fait qu'il y a un public qui est amateur, et en général les fans de Lovecraft s'y retrouvent, certains s'y retrouvent pas, disent « Ah non, ça correspond pas », mais il y a une curiosité. Voilà.
Mathilde, dans vos recherches ou dans vos lectures, vous avez été confrontée à Lovecraft transcrit en images, que ce soit BD ou film ?
Un peu des deux. BD, pas tellement. Non, pratiquement pas. Par contre, plus de la lecture, des images. Sur Internet, il y a beaucoup d'illustrateurs. Oui. Il y avait Nicolas Fructus aussi qui a fait...
Oui.
Qui a refait avec Kadat les contrées du rêve, justement.
Oui,
je crois que c'est l'ouvrage où il y a des illustrations vraiment magnifiques. Et après, il y a des jeux vidéo aussi, surtout des jeux vidéo. Et il y a certains films qui s'inspirent de Lovecraft, par exemple pour Les montagnes hallucinées, je crois que c'est The Thing,
oui,
de Carpenter. Et du coup, ça a été plus des lectures quand même. Je me fiais surtout à mon imagination, Je ne sais pas si ça répond vraiment.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'adaptation cinématographique pure et dure,
ouais.
A priori. On n'a pas fait l'abomination de Dunwich, au sens...
Il y a
un truc qui s'appelle Dunwich, mais
c'est très pas... mauvais. Il y a eu des choses de fait, mais c'est très, très...
Voilà.
Non, c'est pas bon.
Il y a des choses... Après, il y a eu des choses intéressantes. Moi, j'aime bien... Il y a une association de fans de Lovecraft aux États-Unis qui a fait une version muette de l'Appel de Cthulhu. Parce que la nouvelle date de 1930. 31 ou 32, je crois, et ils ont dit on va imaginer que le film a été fait à l'époque où la nouvelle a été écrite. Et donc ils ont fait un moyen métrage en muet de l'Appel de Cthulhu, et ça fonctionne super bien, quoi. Je trouve que c'est et là on découvre un univers visuel, et en même temps le côté muet noir et blanc crée une distanciation aussi qui fait que finalement c'est assez proche. Pour le coup, il y a quelque chose d'assez fidèle. Mais en même temps, bon, il y a, pour prendre des gens plus contemporains, évidemment, tu as cité The Thing, même Alien. Alien, c'est clairement des thèmes, enfin pour moi, c'est des thèmes qui sont évidemment Lovecraftiens. C'est des gens qui découvrent, et surtout si on se place du point de vue des montagnes hallucinées, c'est des gens qui arrivent dans un endroit, il y a une immense, bon, c'est un vaisseau, mais c'est quasiment une ville. et il y a quelque chose qui dort et qui attend et qui, dans l'absolu, se moque de nous, hein, en fait, parce que dans les thèmes récurrents, il y a, on est microscopique à l'échelle de l'univers, et surtout, il y a toutes ces créatures gigantesques et puissantes qui sont pas vraiment maléfiques, c'est juste qu'elles sont totalement indifférentes à ce qu'on peut faire. Et dans le récit de Lovecraft, il y a cette notion de temps immémoriaux, en anglais ils disent deep time, c'est-à-dire que à l'échelle à l'échelle géologique, à l'échelle planétaire, on n'est rien du tout. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore que font certains scientifiques, c'est l'horloge. Si on imagine que la Terre est née à minuit, l'être humain, il est arrivé 23h50 plus tard, quoi. Même pas 23h58. Je crois qu'on est n'existe que depuis 2 minutes sur 24 heures de l'échelle de la planète. Et en se replaçant dans ce contexte-là, c'est finalement un peu ce que se faisait Lovecraft, dire attention, on a beau imaginer qu'on est surtout à une ère où on croit au progrès encore. Et lui, il était peut-être à une époque où on croyait beaucoup au progrès, et lui, déjà, il disait, oula, attention, peut-être que l'humain se prend pour plus que ce qu'il n'est, et la chute va être dure. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec la certaine désillusion qu'on peut ressentir par rapport aux méfaits du progrès, de l'agriculture intensive, je ne sais pas, ou toutes sortes de choses, le développement de l'arme nucléaire qu'il n'a pas connu, c'est pour ça que ça résonne, qu'on se dit, oui, quelque part, on n'est pas grand-chose, quoi.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de la peur, en fait. Est-ce que finalement, Lovecraft, ça vous fait peur, Mathilde?
Alors ça dépend vraiment des personnes, parce que Lovecraft, c'est justement cette peur de l'inconnu, c'est qu'il y a des choses, des mondes qui nous entourent, et on ne maîtrise rien. L'homme ne maîtrise rien, et c'est aussi cette peur du savoir. Quand l'homme sait, il y a même pas d'échappatoire. Enfin, c'est oui, la folie, on sombre en fait. Et donc, personnellement, quand j'ai lu L'Abomination de Dunwich, ça m'a pas fait tellement peur, ça m'a intriguée. Par contre, quand j'ai lu Octulu, là, cette idée de personnes qui vénèrent un être, même dans Innsmouth, des populations qui sont vraiment recluses, qui sont complètement déformées, ces sectes, ces temples, des personnes qui vénèrent des êtres. C'est cette chose-là qui m'a fait peur, justement, de me dire, si ça se trouve, effectivement, il y a des choses qui nous dépassent, il y a cette peur de l'inconnu. Et par exemple, même pour les contrées du rêve, justement, le fait de descendre plusieurs marches pour atterrir, justement, par le rêve d'arriver dans une cité immense avec différentes civilisations, des mondes, différentes langues, ça aussi, ça fait peur. Et avec Lovecraft, tout est suggéré quand on le lit. C'est ce que je disais au début, c'est que le narrateur est confronté à quelque chose d'horrible, mais il a du mal à le décrire. Et ça, mine de rien, avec cette façon-là de décrire, ça provoque une certaine peur. On en sait, mais on n'en sait pas beaucoup non plus. Et c'est ça, quand on lit Lovecraft. Enfin, moi, personnellement.
Il me semble qu'il a établi un peu un jeu avec son lecteur, quoi, qu'il a fait une part du chemin en suggérant quelque chose, et c'est le lecteur qui trouve lui-même sa peur, finalement.
C'est ça. Et après, faut comprendre, moi, on m'avait toujours dit, j'avais un professeur qui m'avait dit, Lovecraft, il faut le mériter pour le lire. En fait, c'est un auteur qui, voilà, faut apprendre à le connaître, et petit à petit, on rentre dedans, et c'est vrai que, enfin, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé de décrire à la Lovecraft, justement, de suggérer, de créer la même peur que lui a réussi à faire, mais au final, c'est impossible de. Enfin, pour moi, je trouve que c'est impossible de reproduire du Lovecraft, enfin, son écriture, quoi.
Vous pensez que les nouvelles traductions de Lovecraft, à ce titre, permettent de mieux apprécier les ambiances, ou pas?
Je sais pas du tout, parce qu'au niveau des traductions, je trouvais que c'était c'est assez compliqué, parce que Lovecraft jouait beaucoup sur les mots en anglais, par exemple fantasy. Il allait l'écrire fantasy, P-H-A-N-T. Il y a tout un jeu, C'est le problème de aujourd'hui, je pense, traduction française avec Lovecraft, c'est un peu compliqué. Mais après, quand on parlait des films, justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a, bon, il y a des films qui sont inspirés, bien entendu, de Lovecraft, mais je pense que si aujourd'hui on n'a pas encore réussi à vraiment faire une belle adaptation de Lovecraft, c'est parce qu'il y a... C'est impossible parce que c'est une peur qui est, enfin, je sais pas, c'est très difficile de la montrer à l'écran, je pense.
Emmanuel, qu'est-ce qui fait peur chez Lovecraft?
Voilà, comme la célèbre citation, c'est la plus ancienne et la plus forte des émotions de l'être humain, c'est la peur. Et la peur la plus ancienne et la plus forte, c'est la peur de l'inconnu. Et ben évidemment, c'est ce que tu as expliqué. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis surtout, quand on va le voir, est-ce que ça va pas? Est-ce que ça finalement? Est-ce que nos curiosités va pas nous coûter cher, quoi? Et au début de l'appel de Cthulhu aussi, où il a cette phrase où il dit en gros, Dieu merci, le cerveau humain n'est pas capable de mesurer exactement, enfin de prendre conscience exactement de la réalité de la situation, parce que sinon ce serait pas possible. Et c'est ça en fait, la peur qui génère, c'est un mélange d'angoisse, de ce sentiment aussi de peut-être d'avoir été un peu trop loin, quoi, d'avoir fait sortir le diable de la boîte en voulant peut-être que l'homme, en voulant devenir trop divin, est allé un peu trop loin. Et pourtant il est foncièrement athée, c'est l'horreur matérialiste, il est sorti de tout le côté gothique, surnaturel. Il n'y a pas de moralité à proprement parler, comme dans les premiers récits gothiques où en gros les bons pouvaient s'en sortir. Là, il y a une espèce aussi, voilà, cette notion d'indifférence, que les personnages sont, comme tu disais, inconséquents, quoi. C'est plus un vecteur pour voir quelque chose. Et il y a même des personnages qui... dans les montagnes hallucinées, qui découvrent ce qui est arrivé à d'autres personnages et qui font tout pour que ceux qui arrivent derrière surtout ne découvrent pas ce qui s'est passé. Et donc le lecteur, lui, il se retrouve dans la situation de l'interdit. Il se dit, oh là là, j'ai découvert... Donc je pense que ça, évidemment, c'est des mécanismes qu'il maîtrisait parfaitement et qui fonctionnent toujours à plein quand on voit quand on lit ces textes. Et en termes de film, bon, c'est vrai que... C'est pas évident. Déjà, c'est pas évident de faire peur au cinéma, sans sombrer dans le Grand Guignol ou dans le. Maintenant, moi, je me dis que avec des moyens modernes, bon, il y a le fameux projet des montagnes hallucinées de Del Toro, qui était sur la touche depuis un moment. Puis finalement, comme il a à nouveau du succès avec son dernier film, on sent qu'il a vraiment envie de le faire. On se dit, ouais, ça va être compliqué, mais après tout, pourquoi pas. C'est peut-être le récit qui vieillit, qui passera le mieux, parce que c'est vrai que d'autres comme l'abomination de Dunwich, ou d'abord ce sont des récits courts qui auraient peut-être du mal à tenir sur la durée d'un film. Celui-là étant le plus long et puis se passant dans un univers visuel qui a pas trop bougé depuis l'époque, on peut tout à fait l'imaginer. Voilà.
Oui, ça a jamais découragé les illustrateurs de se mesurer graphiquement à Lovecraft. C'est vrai que Mathilde, vous avez évoqué tout à l'heure les illustrateurs de Lovecraft. En particulier, il y a un qui vous a marqué.
Nicolas Fructus.
Nicolas Fructus,
oui. Oui, vraiment, j'ai eu la chance en plus de voir. Il y avait une exposition à Paris, c'était pas vraiment une exposition, mais un événement où il y avait justement ces œuvres qui étaient exposées. Il a un sens du détail, je trouve, des couleurs. Je crois d'ailleurs que c'est lui aussi qui avait fait pour le film La Belle et la Bête avec Vincent Cassel. Je crois que c'est lui qui avait fait aussi.
On parle toujours de peur pour Lovecraft, mais est-ce que c'est quand même un auteur qui est loin de se cantonner à ce registre? Là, je relisais la quête onirique de Kadath, l'inconnu, et j'ai été assez marqué par finalement le côté fantasy de Lovecraft et des descriptions de lieux assez lumineuses. Est-ce qu'il y a d'autres registres dans lesquels vous avez trouvé que cet auteur excellait en particulier? ou pas?
Non, quand tu cites Kadat, c'est l'étrangeté, en fait. Donc l'étrangeté, elle n'est pas forcément terrifiante. Elle peut être aussi illuminante, elle peut être aussi... Et même lui, on peut faire le parallèle entre... Bon, il a aussi été critiqué a posteriori, comme ça arrive souvent, pour ses écrits racistes, parce qu'il avait tellement peur de l'autre et de l'étranger qu'il a écrit des choses à certaines périodes assez horribles. Et en même temps, quand il était à New York, il a découvert des choses et il a été heureux pendant un moment. Il était marié à cette époque avec une juive alors qu'il a eu des propos très très limites. Donc je pense qu'il avait ce paradoxe de à la fois la peur de l'inconnu et en même temps, qu'on peut voir aussi dans Kadat, ce côté s'ouvrir à l'inconnu peut avoir aussi des vertus. Des vertus des positifs, quoi, de découvrir autre chose. Et de même, son rapport avec le voyage, à un moment, il sortait pas de chez lui, puis après, il a eu cette soif de rencontrer des gens. Enfin, moi, je me dis toujours que quelqu'un qui écrit autant de lettres avec autant de gens, ça peut pas être quelqu'un qui déteste autant le monde. Seulement, par contre, il est très marqué par sa culture. Il était presque décalé dans le temps, quoi. Lui, il était passionné par le XVIIe siècle. Le 18e siècle, plutôt, la littérature de l'époque. Et il a dit, je crois, une fois, il a écrit, je suis pas à la bonne époque, quoi. Donc, ça, forcément, face à un monde qui changeait très, très vite, ça a eu des effets, je pense, dévastateurs sur sa psyché. Et sur... Mais encore une fois, on peut voir, effectivement, ça se limite pas à la peur. Et lui aussi, il l'a pas.
Dans les contrées du rêve, il y a justement il y a un endroit où il dit que l'herbe sent... on peut sentir l'herbe, même Kadat, c'est un peu le paradis en quelque sorte. Ouais. Quand on y accède, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est splendide. Donc après, il y a des endroits aussi terrifiants comme les souterrains où là il y a des goules, il y a plein de choses, et même les profondeurs, les abysses, là où est Cthulhu, au final, ça aussi, c'est une peur de l'inconnu, l'océan Pacifique. Au final, on n'a jamais exploré tout.
Il y a un problème avec la mer et les poissons.
Oui.
Manifestement. Et le froid aussi.
Et le froid, oui.
Pourtant, il aimait beaucoup les glaces, donc ça... il en mangeait trop, apparemment.
Comment Love, parce qu'il est mort en 37, c'est Auguste Derleth qui a monté Arkham House. Pour publier les œuvres de Lovecraft.
C'est le premier à les avoir publiées.
Le premier à les avoir publiées, d'ailleurs.
Hors des magazines.
Tout à fait. Et comment Lovecraft, en fait, a passé l'Atlantique et est arrivé en France? Est-ce que c'est retracé?
Oui, c'est retracé. Il y avait des... Alors là, je me souviendrai plus. Mais il y a des gens... peut-être que quelqu'un dans le public saurait mieux, mais il y a eu deux, trois champions, si j'ose dire, de gens qui ont milité pour faire découvrir ses œuvres. Les premières traductions, je crois que c'est celles qui sont restées pendant longtemps, les seules traductions, c'était celle de comment il s'appelle je retrouverai plus son nom, voilà. Mais c'est celle auxquelles on a eu accès. Et donc, il a été... dans la suite de Arkham House, ouais, il y a eu des gens qui sont faits les promoteurs de son œuvre. Mais là, je connais moins bien le passage. Après, je dis moi, pour les gens de ma génération, c'est clairement le jeu qui a développé cette curiosité parce que c'était un univers, qu'on avait envie de découvrir.
Ouais, tout à fait. Moi, c'est pareil. J'ai découvert Lovecraft par le jeu de rôle, Mathilde.
Je sais pas du tout. Je crois que c'était pas Papy.
Jacques Papy. Exactement ça. Ouais. Et alors c'est des traductions qui ont été critiquées après. Ouais. Mais en fait, quand on discute avec des gens qui connaissent bien Lovecraft en anglais, il y a personne qui est jamais d'accord. Et là, avec toutes les traductions qu'il y a, moi, quand je lis les textes de les nouvelles traductions de François Bon, par exemple, qui est un écrivain que j'aime bien, et les textes que je connais bien, ça me choque parce que je suis vraiment trop habitué à l'ancienne version. Alors je me dis, est-ce que c'est parce qu'elle était meilleure l'ancienne ou est-ce que c'est parce que je suis trop habitué? Je crois qu'après la seule solution c'est de le lire en anglais. Alors j'ai une anecdote drôle à propos des traductions, c'est Yann Kulbar qui disait Lovecraft il passe beaucoup mieux en français qu'en anglais. Ouais. Et d'ailleurs souvent quand les écrivains anglo-saxons parlent de Lovecraft, sur le style, ils sont un peu, ils disent qu'il en fait un peu trop dans l'usage des adjectifs et que finalement ça nous choque moins nous, ou que en tout cas on peut plus, la langue française permet peut-être de rendre ça plus élégant que chez Lovecraft, où parfois c'est un peu lourd.
Oui.
de la vie des écrivains.
Ça fait plusieurs lignes des fois avant d'arriver, ouais. Sans virgule avant d'arriver à la fin de la phrase. Mais...
Et les horreurs sont tout le temps eldritch, anciennes, antiques, alors que nous, peut-être on a plus de on peut changer un peu. Ce qui fait qu'on peut avoir des différences dans les traductions, c'est que peut-être que sur certains termes, on peut plus facilement broder un style différent.
Finalement, il n'avait pas une sensibilité plus européenne qu'américaine, Lovecraft ?
Ah si, ouais, je pense. Non. Dans le sens Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire cette culture américaine, mais qui est la culture encore très, très imprégnée par l'Angleterre, quoi, et dans sa culture.
Il avait un côté conservateur.
Et conservateur. Donc, bon, c'est un enfant de l'Amérique moderne, mais il idéalisait assez, quand même, les écrivains. Voilà. C'est pour ça qu'au début, il était très inspiré par Edgar Poe, et aussi...
Pour terminer, parce qu'on arrive presque au terme de ces quelques minutes autour de Lovecraft, est-ce que Benjamin voudrait intervenir ? Pas de problème. Voilà, parce qu'on a évoqué, Lovecraft adapté en bande dessinée, on a évoqué Lovecraft en littérature, et là on a l'occasion de pouvoir avoir quelqu'un qui peut nous parler de Lovecraft et la musique. Donc si Benjamin veut bien nous rejoindre.
Bonsoir, donc moi je m'appelle Benjamin Guéry, je joue dans un groupe de black metal atmosphérique qui s'appelle The Great Old Ones. Et donc, comme son nom l'indique, tout est inspiré par rapport à Lovecraft.
Alors, Benjamin, comment... même question qu'à Mathilde et Emmanuel. Ouais. Comment tu es venu à rencontrer Lovecraft, en fait ?
Voilà, un peu comme beaucoup de gens, par le jeu de rôle. C'est pas, y a rien, c'est assez classique. Par le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, à l'époque, quand j'étais gamin. Et du coup, le fait d'avoir été acteur, en fait, des histoires, c'est ce qui m'a permis vraiment de m'entraîner dedans, qui m'a après amené à lire plus de nouvelles, à m'intéresser. Mais c'est vraiment le fait d'avoir été acteur, et il y a un vrai univers, en fait, dans Lovecraft. Non, alors, il y a eu plusieurs choses au niveau des textes du groupe, tu veux dire ?
Oui.
En fait, le but, c'est d'essayer de se renouveler. Donc, selon les albums, on a sorti 3 albums, donc selon les albums, en fait, c'est un petit peu différent. Sur le premier album, c'était plutôt un recueil. D'histoires inspirées de Lovecraft. Il y avait des trucs plus directs, hein, mais un peu soit des poèmes, soit des histoires. À titre d'exemple, il y a un morceau qui s'appelle Jonas, donc il reprend un peu cette histoire de Jonas, mais on remplace la baleine par une créature Lovecraftienne. Il y a ce principe-là. Le deuxième album, en fait, était lui... Alors le but, c'était de s'ancrer dans quelque chose de vraiment encore plus proche de Lovecraft. C'est une adaptation, en fait, directe des Montagnes Hallucinées.
D'accord.
L'album s'appelle Tekelili,
oui.
Et pour ceux qui l'ont lu, c'est le bruit des Shoggoths, donc directement là-dessus. Le premier album s'appelait Alazif, en fait. Dès le début, on était quand même dans quelque chose d'assez marqué. Et alors, le dernier album qui est sorti au mois de janvier, qui s'appelle Iodi, en fait, est une espèce de suite. Alors, j'ai essayé de créer quelque chose d'un peu différent pour ne pas faire tout le temps la même chose. Et c'est une espèce de suite au cauchemar d'Innsmouth. Donc, je vois qu'on se retrouve tous, en tout cas, autour de cette nouvelle. On l'aime bien. Et pour les mêmes raisons qu'Emmanuel, en fait, cette nouvelle, elle me plaisait parce qu'il y a de l'action, parce que elle regroupe un peu, je vais un peu répéter ce que tu disais, elle regroupe un peu, en fait, tout ce qu'on aime bien chez Lovecraft. Il y a le mythe de Cthulhu quand même derrière, il y a le côté secte, les profonds, la mer, les savoirs interdits, il y a un peu de tout ça, et donc du coup le but c'était d'écrire une suite. Bon, elle n'est pas très différente de la nouvelle originale, ma suite, c'est vraiment un descendant en fait de Robert Olmsted, le narrateur, qui va sur les traces de son ancêtre pour essayer de savoir ce qui lui est arrivé. Tout simplement. Et Iodi voulant dire Esoteric Order Dagon, donc ce qui est vraiment basé par rapport à ça. Donc c'est tout est basé là-dessus. Maintenant, la prochaine question, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire pour le quatrième album. Pour l'instant, j'en sais rien.
Et la musique, vous essayez de retranscrire ce que vous pouvez ressentir à la lecture de Lovecraft ou...
Ouais, alors ça s'est fait un peu de... C'est un truc qui s'est fait un peu lui-même. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à composer tout seul dans mon coin, au début, c'était pas du tout dans l'esprit Lovecraft. Enfin, mon but, c'était de faire du black metal, le reste, je m'en foutais. Donc, du coup, au bout d'un moment, il a fallu réfléchir un peu quand même à un sujet, à un moment d'écrire les paroles. Et en fait, c'est tombé un peu comme ça. Je me suis dit, tiens, ça me fait vraiment penser à ce que je ressens quand je lis les nouvelles de Lovecraft, les nouvelles ou les quelques romans. Donc, je me suis mis à écrire des textes dessus. J'avais pas encore terminé le premier album et ça fonctionnait super bien. Ça fonctionnait avec ma vision des choses. Hein. C'est ce que je dis toujours quand on me pose la question. Mettre en musique ou mettre en image, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est hyper perso en fait. À un moment, on peut s'imaginer, il écrit, mais bon, on peut s'imaginer un peu de différentes manières. Donc là, c'était ma vision des choses quand j'ai écrit ces morceaux. C'est pas forcément celle de tout le monde. Il y a des groupes de métal, dans le métal, il y a énormément de groupes qui se basent sur Lovecraft. On peut citer, alors, parfois c'est juste des morceaux, il y a eu Metallica, bon, tout le monde connaît celui-là, pour ceux qui écoutent du métal. Après, il y a eu Morbid Angel, Portal, aujourd'hui qui se base uniquement par rapport à ça. Mais il y avait toujours cette notion un peu purement horrifique. On parlait de créatures vraiment monstrueuses, mais que sur ce côté rampant, très très sombre, très très noir. Et alors moi, j'avais envie d'y amener quelque chose d'un peu plus... on citait autant le background, en fait, que les personnages principaux. D'accord. Et c'est ce que je retrouvais, ce côté un peu onirique, ce côté un peu rêve. Et du coup, comme ça s'est fait de cette manière-là, à un moment, je ne voyais pas pourquoi j'avais changé. En fait, ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, on était tous raccord dans le groupe avec ça, donc c'était parfait.
Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que tous les membres du groupe sont fans de Lovecraft ?
Alors, pas dire, quand j'ai formé le groupe après, alors, le premier qui m'a rejoint, mon acolyte premier, Jeff Grimal, qui s'occupe de tous les graphismes, lui, il
était superbe.
Merci pour lui. En fait, il était déjà inspiré par Lovecraft. Déjà, à l'époque, maintenant, il ne fait que ça, il est vraiment peintre. Et justement, en plus, dans ce qu'il faisait, ça, je trouvais que ça, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas retranscrire ça, c'est très personnel, mais ça marchait super bien. Donc ça, on s'y retrouvait. Après, tout le monde n'était pas ultra fan de Lovecraft directement. Il y en a par contre qui ont rejoint le groupe uniquement parce que le groupe s'appelait The Great Old Ones, et donc du coup, ça leur a fait parler, ça leur parlait de Lovecraft. Mais je pense que celui qui vient et qui ne s'y intéresse pas, il ne restera pas très longtemps.
D'accord. Merci. Bonne soirée.
Merci.